ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Tania Rachaud.
Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Leobardo Arango. Nous enregistrons depuis le CHRU de Nancy pour un épisode spécial sur le thème de la bioéthique, en partenariat avec l'Université de Lorraine, Les Surligneurs et Amicus Radio. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet épisode et tous les autres sur nos sites internet, celui des Surligneurs, celui d'Amicus, mais bien sûr les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amicus, vous serez donc prévenu de la diffusion de nouveaux épisodes.
L'Europe.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce deuxième épisode sur les questions de bioéthique, nous allons nous intéresser à la question de l'accès aux origines, une question qui est inclue dans les lois de bioéthique. Alors la bioéthique, bien, ça renvoie aux questions de morale que l'on se pose lorsque la science évolue et que cette science affecte notre corps. Et en l'occurrence, la question se pose sous l'angle de la cellule familiale, qui elle est affectée bien parce qu'il y a la question de la possibilité de faire des dons pour la procréation médicale assistée, pour permettre de faire des familles différemment, mais aussi parfois la question ou le besoin de remonter une histoire familiale sur le terrain génétique ou parfois affectif, pour comprendre tout simplement d'où l'on vient. Et pour explorer ces deux angles, donc l'accès à l'identité des donneurs et celle des parents, lorsqu'un enfant est né dans le secret ou sous X, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Tout d'abord, Maria Fartounova, maître de conférence HDR à l'Université de Nancy, titulaire de la chaire Jean Monnet EU Bioethics, bioéthique et gouvernance européenne, qui a pleinement investi le sujet de la bioéthique et donc voulu explorer le sujet de l'accès aux origines. Bonjour.
Bonjour Tania, merci beaucoup pour votre présence.
Mais aussi donc Laurence Brunet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste spécialisée dans les questions de bioéthique et de médecine reproductive, chercheuse associée à l'Institut de sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne Paris 1 et CNRS. Et enfin, Huguette Moss, bonjour.
Bonjour.
Ancienne présidente du CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, membre du comité d'éthique du CHRU de Nancy et membre du CPP, le comité de protection des personnes. Alors donc, pour ces questions d'accès aux origines pour les enfants nés dans le secret ou ceux qui sont nés d'un don, eh bien, il y a deux dispositifs parallèles. Et dans les deux cas, l'objectif final, finalement, c'est de révéler une identité, mais donc avec des approches assez différentes au niveau législatif. Peut-être, Huguette Moss, vous pouvez nous éclairer sur la question des enfants nés dans le secret.
Les enfants nés dans le secret, ça existe depuis la fin des années 1800. C'est pas quelque chose qui est né avec la loi de 2002. En revanche, la loi de 2002 a organisé au niveau de la France un dispositif spécifique qui permet aux enfants nés dans le secret de pouvoir accéder à une information concernant leurs parents biologiques. C'est un dispositif qui a été mis en place, mais qui est comme champ d'investigation, un domaine beaucoup plus long, puisque ça va jusqu'au début des années 1900. La recherche des origines est effectivement une question importante, et la loi de 2021, bioéthique, a complété le dispositif de la loi de 2002 créant le CNAOP, en donnant une compétence un peu spécifique sur le problème des maladies génétiques. C'est donc un complément qui a été apporté sans remettre en cause le fonctionnement du CNAOP, mais en donnant une autre dimension concernant les maladies génétiques qui pouvaient affecter soit l'enfant né dans le secret, soit la parentèle qui était porteuse d'une maladie génétique, de façon à assurer une information, mais sans pour autant lever le secret de l'identité de la mère de naissance ou de l'enfant né dans le secret.
Et Laurence Brunet, peut-être du côté de la question de l'accès à l'identité des donneurs, est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer un peu sur le dispositif qui existe sur cette question ?
Alors, les choses sont contrastées, puisque lorsque les lois de bioéthique se sont mises en place dans les années 94, même très exactement 94, il paraissait évident, éthiquement parlant, que les donneurs et les donneuses, c'était surtout des donneurs de spermatozoïdes, moins des donneuses d'ovocytes à l'époque, devaient être anonyme et devait rester anonyme. C'était une façon de concevoir, de protéger la famille qui allait être créée grâce à ce donneur ou cette donneuse. Donc cette idée que le secret devait être protégé, que l'anonymat devait être absolu, totalement étanche, a perduré longtemps. Puisqu'il a été levé que avec la loi dont Madame Mauss a parlé, c'est la loi du 2 août 2021, qui a opéré vraiment une révolution copernicienne en la matière, puisque l'anonymat reste entre le donneur et le couple qui a besoin de ce don pour avoir un enfant, mais il va pouvoir être levé lorsque l'enfant sera devenu majeur. Voilà, on voit bien quand même qu'il y a une évolution et que ce qui s'est passé pour les enfants nés dans le secret, nés sous X, a quand même une importance, parce que je pense qu'il y a quand même une continuité, même si c'est très différent, il y a une continuité. Je pense que la loi de 2002, c'est un précédent dans l'ouverture de l'accès aux origines, qui finalement devient une sorte qui se poursuit et qui permet quand même, dans la loi 2021, de lever l'accès aux origines en cas de don et non pas simplement en cas d'accouchement dans le secret.
Merci pour ces précisions qui nous permettent en fait d'introduire ce sujet. Mais pour entrer donc maintenant dans le vif du sujet, au cœur du débat se trouve quand même la question du consentement des parents, le consentement des donneurs aussi, et probablement le maintien de ce consentement dans la durée. Et que finalement aussi l'enfant va subir. Hein. On est dans un sujet où il y a une difficulté de conciliation entre les deux. Alors quels choix ont été faits sur cet angle du consentement? Alors peut-être Huguette Mauss pour la question de l'enfant né sous X.
La question du consentement, elle est double. C'est le consentement de la mère biologique et c'est le consentement de l'enfant. Alors je distinguerai deux temps. Il faut déjà, au moment de l'accouchement, il y a déjà un consentement de la mère à donner un certain nombre d'informations parallèlement au fait d'accoucher dans le secret, qui est quand même une démarche assez difficile pour la femme qui rejette cet enfant, compte tenu des conditions parfois de conception douloureuses, mais c'est aussi un problème d'accompagnement à ce consentement. Et le personnel de l'aide sociale à l'enfance accompagne la femme qui accouche pour qu'elle accepte de donner un certain nombre d'informations qui seront utiles plus tard lorsque l'enfant devenu majeur demandera à accéder à ses origines. Et donc si on se reporte 20 ans plus tard, quand l'enfant recherche ses origines, quel est le consentement de la femme qui a accouché dans le secret à donner des informations lorsqu'on l'a retrouvée, alors qu'on lui avait promis que ce serait secret et que jamais personne ne viendrait la déranger sur ce champ. Pareil pour l'enfant qui est né dans le secret, il va demander à accéder à ses origines. Et là, c'est une démarche personnelle et intime d'aller rechercher une personne qui n'a pas voulu de lui. Le problème du consentement pour les enfants est aussi une démarche difficile. On va s'en tenir juste aux démarches du CNAOP actuellement. On verra ultérieurement qu'il peut y avoir d'autres problèmes de consentement lorsqu'il y a des démarches forcées pour retrouver un enfant en dehors du CNAOP. Mais c'est un autre débat qu'on évoquera certainement en fin de matinée. Le problème du consentement est quand même au cœur des démarches à la fois de la mère biologique et de l'enfant, puisqu'on est sur des données secrètes et que l'État s'est engagé à maintenir ce secret.
Et alors, du côté du don, la question se pose un petit peu différemment du consentement. Laurence Brunet.
Complètement différemment, puisque pour l'avenir, pour les dons de gamètes, qui seront utilisés à partir du 31 mars 2025 de manière systématique, ce sera des gamètes non anonyme, c'est-à-dire nouveau régime, c'est-à-dire que le donneur, pour être donneur, devra avoir accepté de donner l'accès, 18, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, à la demande de l'enfant qui sera né. Donc il devra, dès le moment où il accepte de donner ses gamètes, accepter qu'on puisse avoir accès à son identité et à ses données et ou à ces données non identifiantes. Donc le paradigme est radicalement différent. Dans un cas, il y a le maintien de la du droit de la femme à accoucher sous X, on va le dire comme ça, alors que pour le donneur aujourd'hui, il n'est plus possible de donner en demandant le secret. Donc le consentement, voilà, là-dessus, il n'y a pas plus d'ambiguïté. Si vous voulez être donneur ou si vous voulez être donneur de gamètes, mais si aussi, c'est important de le rappeler, si un couple a des embryons surnuméraires, c'est-à-dire des embryons qu'il n'a pas utilisés et que son projet parental est terminé. Et parfois, il y en a quand même plusieurs qui restent cryoconservés. Donc, ce couple va devenir donneur à son tour. Il va accepter que l'embryon soit accueilli par d'autres. Donc, il rentre dans la catégorie donneur. Donc, tous ces gens qui vont donner leur matériel biologique ou les embryons in vitro qui ont été conçus ne peuvent donner que s'ils sont d'accord avec la transparence futur qui va être aménagé. Mais, il y a eu le même problème que celui que Madame Moss évoque à propos des donneurs à qui, jusque en 2022, la première décret d'application de la loi de 2021, ces donneurs ancien régime, exactement comme pour les femmes qui ont accouché dans le secret, on leur avait promis, et c'était un engagement d'État, un engagement institutionnel, on leur avait promis le secret. Donc effectivement, et exactement sur le modèle et avec les retours d'expérience du CNAOP, le législateur a décidé de faire un dispositif transitoire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il s'arrêtera parce qu'il ne servira plus à rien, puisqu'à un moment donné, on n'aura que des donneurs complètement traçables. D'accord ? Donc il est transitoire, mais c'est celui qui aujourd'hui occupe quand même occupe beaucoup la commission qui est dédiée à sa mise en application. Il y a un dispositif qui permet donc à une commission qui est peut-être l'équivalent du CNAOP et qui s'appelle la CAPAD, la commission d'accès des personnes nées d'une AMP aux données des tiers donneurs. Donc cette commission, c'est une sorte d'interface, un peu comme le CNAOP l'est, et donc les personnes aujourd'hui majeures, hein, donc des enfants qui ont été conçus dans les années 60, à partir des années 70 à peu près, eh bien ils peuvent saisir cette CAPAD en demandant s'ils pourraient avoir accès à leurs origines. La CAPAD va faire des investigations, comme le CNAOP peut le faire, en demandant la collaboration des centres où le don a eu lieu et où l'insémination avec ce don a eu lieu. On va rechercher. Si on identifie le donneur ou la donneuse, on va la contacter. Et là, il y a le coup près du consentement. Il faut que le donneur ou la donneuse accepte de consentir à la levée de son identité, donc exactement sur le modèle de ce qui se passe sur le CNAOP, pour que, à ce moment-là, la personne née de ce don puisse accéder à ces données identifiantes et non identifiantes. Donc là, c'est très très proche. Les mécanismes sont proches.
Moi, j'aimerais bien aussi rebondir sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressée par rapport à ce que vous venez de dire. Dans la perspective, hein, par exemple, du nouveau règlement SOO qui a été publié cet été et qui va entrer en vigueur en 2027, c'est le règlement SOO qui est relatif, qui réunit en seul texte les deux directives relatives aux dons de sang et de tissus humains. Pourquoi je rebondis dès maintenant ici par rapport à la question du consentement, parce que vous avez à juste titre évoqué la question du don et la question de la libre circulation des cellules reproductrices, y compris les cellules embryonnaires. Donc là, au niveau de l'Union européenne, la question peut davantage se poser, dans la mesure où le règlement sur la qualification de don volontaire et non rémunéré renvoie aux États, pour la protection justement de la confidentialité et du secret. Donc il y a toute une formule qui peut être sous l'impulsion du droit de l'Union européenne va évoluer dans la mesure où l'objectif de ce règlement est d'aller plus en profondeur, sur ces questions-là, sur la protection sur le fond. Ce n'est plus simplement un texte dérivé du droit de l'Union européenne qui gère techniquement le recueil de dons, mais l'utilisation de ces cellules, non seulement pour la protection de la santé publique, ce qui était le cas de la directive 100 de 2002, dans la mesure où l'objectif clairement affiché à l'époque, c'était l'autosuffisance en sang, pour faire face à tous les scandales qu'il a eu sur le sang contaminé. Et donc l'incapacité des États membres à faire face en cas de pénurie de sang, donc, et assurer la traçabilité de ce don de sang, mais également des cellules humaines. Et ce règlement-là va au-delà de cet aspect technique, en posant justement clairement au sein de son dispositif la problématique du consentement et de la libre circulation. On entend derrière, bien sûr, l'utilisation de ces substances d'origine humaine auxquelles SOHO, d'ailleurs, c'est l'abréviation en anglais, c'est des substances d'origine humaine qui couvrent un spectre beaucoup plus large que le sang et les tissus.
Donc, voilà. Un cadre européen assez contraignant. Merci Maria Fertunova pour cette précision, effectivement, et donc des évolutions à venir. Et donc, on comprend que le don, finalement, va faciliter l'accès aux origines bientôt. Et en même temps, c'est une contrainte d'obliger tout le monde à révéler son identité. C'était plus facile de faire des dons anonymes, alors que j'imagine que le don, c'est quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut attirer, que c'est plutôt logique. Et peut-être la deuxième question après, c'est aussi de savoir donc pourquoi cette différence. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de plus affectif dans la naissance sous X ? Est-ce que c'est la seule explication ou pas ? Je sais pas. Laurence Brunet.
C'est vrai que l'idée de rendre ce don obligatoirement transparent, il n'y a pas d'obligation pour la personne issue du don à savoir quelle est l'identité et les données de la donneuse. Ça sera bien sûr, ça sera pas, non seulement ça n'est pas marqué sur l'acte d'état civil, on ne peut que s'en féliciter, que l'enfant est né d'un don de gamètes, c'est pas marqué non plus dans le dossier médical le sien, bien sûr ça peut apparaître dans le dossier médical de ses parents, donc il n'y a pas d'obligation à le savoir. Bien sûr, ça suppose que les parents, parce que voilà, pour que l'enfant le sache, il faut que les parents le lui disent. Donc, il y a bien sûr une distinction entre le secret et l'anonymat, et le secret de la conception. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre. Donc, l'enfant n'est pas obligé de le savoir. C'est mieux s'il le sait et il peut savoir comment il est né et puis ne pas avoir envie de connaître l'identité du donneur. Tout ça est quand même laissé au choix et va répondre à la liberté de chacun de savoir plus ou moins s'il veut connaître ses fameuses origines biologiques. Donc là-dessus, il y a quand même cette espèce de liberté qui correspond au chemin, au destin, aux évolutions de chacun de nous. Et puis, peut-être aussi, si le législateur a décidé en 2021 de mettre un terme au régime du secret, bien sûr, il y avait le précédent de la loi de 2002, il y avait la pression des tests génétiques, on va y revenir en fin d'émission, je sais. Il y avait aussi la pression de la Cour européenne des droits de l'homme qui était, et on savait qu'il fallait que le droit français évolue. Mais parce que aussi, je pense qu'on a considéré que c'était moins dramatique, que la situation n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans l'accouchement sous X, que quelque part, le don, c'est pas de l'abandon. Le don, c'est je donne mes gamètes pour que d'autres puissent avoir des enfants. C'est un geste positif et je crois que lever le secret, c'est aussi... rendre possible la levée du secret, c'est aussi dédramatiser et rendre aussi plus visible la pluralité des familles.
Donc Huguette Moss, ça veut dire que ce choix qui a été fait pour le don ne sera probablement jamais fait pour les naissances dans le secret ?
Je ne sais pas. Je pense qu'il appartient au législateur de modifier éventuellement la loi de 2002. La pression d'un certain nombre d'associations est forte pour éviter effectivement les naissances dans le secret. Mais en fait, je tiens quand même à rappeler que depuis 2002, le fait qu'il y ait beaucoup d'accompagnement des femmes au moment de l'accouchement, le nombre de naissances dans le secret a fortement baissé. Donc, pendant des années, le nombre de naissances dans le secret était de 600 par an. Maintenant, on est à moins de 200. Donc, dans les 2 mois qui suivent la naissance, les mères biologiques se rétracte et demande, un certain nombre demande de retrouver cet enfant. Mais le problème, c'est surtout que les enfants nés dans le secret, il n'y en a que 10% qui cherchent à retrouver la mère de naissance. Donc, ce n'est pas une démarche très générale. Il y a effectivement un certain nombre d'associations qui revendiquent le pouvoir de contacter les mères de naissance. Mais si les enfants ne veulent pas avoir de contact, mais sachant que c'est une démarche unilatérale pour les enfants nés dans le secret. La mère ne peut jamais aller chercher l'enfant qui est né dans le secret. On verra que la loi de 2021 introduit un léger biais en permettant justement, lorsque la mère est porteuse d'une maladie génétique ou la parentèle, de solliciter le CNAOP pour informer que l'enfant qu'elle a eu à un moment donné est susceptible de développer une maladie génétique, mais avec une sorte de boîte noire pour éviter justement qu'il y ait cette identification. Alors la question, c'est toujours les données identifiantes, données non identifiantes, qui est une question qui se pose aussi bien pour les enfants nés d'un don que pour les enfants abandonnés dans le cadre du CNAOP.
Et on va s'intéresser à cette question juste après une courte pause musicale.
Beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane?
Insane.
I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life. Paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plan.
Ain't got no plan.
It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? What a life. What a night. What a beautiful, beautiful. What a life. It's okay.
Écoutez What a Life de Scarlett Pleasure et nous sommes donc toujours en train de parler de l'accès aux origines en compagnie de Maria Fartounova, Huguette Moss et Laurence Brunet. Alors maintenant on va peut-être s'intéresser plutôt justement aux informations qui peuvent être transmises lorsqu'elles sont demandées. On a commencé à parler des maladies génétiques où on a besoin d'avoir une forme d'historique. Donc alors concrètement comment ça se passe? Quelles sont ces informations? Huguette Moss.
Les informations données, c'est au moment de l'accouchement. Elles sont formalisées. Depuis la loi de 2002, il y avait une obligation de récolter un certain nombre d'informations auprès de la mère qui a accouché dans le secret. Mais l'ensemble, le dispositif complet, n'a été vraiment structuré qu'en 2016. Vous voyez qu'il a fallu attendre 14 ans pour que tout le détail de la collecte des informations soit bien effective. Parce qu'en fait, il fallait mettre un terme au caractère disparate de la collecte des informations qui avait été organisée avant par les conseils départementaux et notamment les services de l'aide sociale à l'enfance, qui avaient des dispositifs très différents pour recueillir la vie et la position des femmes. Et certaines femmes ne voulaient rien dire. Il y en a d'autres qui étaient extrêmement bavardes sur les conditions dans lesquelles la conception avait eu lieu et l'accouchement. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont raconté leurs fantasmes. Et donc, tout ça a été collecté dans les dossiers de l'aide sociale à l'enfant jusqu'en 2002. Ensuite, il y a eu un formalisme sur les informations à recueillir auprès de la femme qui accouche. Mais ce qui est essentiel, c'est que dans ces dossiers, il y a un pli fermé que la femme peut utiliser pour laisser son identité. Mais la femme peut aussi ne rien laisser. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes, la correspondante du CNAOP, qui assiste après l'accouchement à l'entretien ou qui conduit l'entretien avec la femme qui a accouché, recueille le maximum d'informations. C'est toujours déclaratif, donc on ne peut pas dire que c'est un dossier médical qui est transmis, mais ce sont des informations sur le contexte social, sur le contexte médical que la femme veut bien transmettre à l'enfant sous couvert de protection avec la correspondante du CNAOP qui est là au moment de l'accouchement. Donc là, je ne parle que des informations données au moment de l'accouchement. Je ne parle pas d'autre chose.
D'accord. Donc, effectivement, un choix de la mère assez important. Alors, j'imagine que c'est plus cadré pour la question des dons, Laurence Brunet.
Oui, ça a été plus cadré dans la foulée de la loi de 2021. De bioéthique. Donc, le donneur ou la donneuse, non seulement doivent accepter que leur identité soit levée, quand la personne issue du don sera majeure, mais ils doivent aussi remplir un questionnaire, un formulaire, parce qu'il est possible que la personne ne demande que des données non identifiantes. La loi a permis cette option, donc une sorte d'alternative, soit on demande l'identité et les données non identifiantes, soit on peut demander l'une ou l'autre. Et donc, le donneur ou la donneuse doit absolument remplir ce formulaire avec des données non identifiantes qui sont listées dans la loi. Et donc, il y a, bien, outre l'identité, l'âge, les caractéristiques physiques, la situation familiale et professionnelle, le pays de naissance. Deux choses importantes qui ont été reformatées récemment dans un arrêté. La question de l'état de santé, parce que justement, toute la question est de savoir si les données sur l'état de santé seront des données médicales. Or, c'est exactement ce que vient de dire Madame Mauss. Lorsque le donneur ou la donneuse remplit, il parle, c'est déclaratif. Il raconte comment il se sent. Donc, il donne des informations sur son état de santé, son état psychologique, tel qu'il les ressent. Lui, ça n'a aucune valeur objective. Voilà, donc ça a été bien précisé. Et aussi, comme c'est possible pour la femme qui accouche sous X, il y a maintenant la possibilité de faire une lettre à part pour expliquer les motivations du don. Voilà. Donc c'est quand même, là c'est très cadré, hein. On n'a pas attendu 14 ans et le retour d'expérience des gens sur le terrain, mais sans doute parce que vous l'aviez déjà fait. On a vraiment encadré très vite ce qui doit être fait, et ça a été et le travail de la CAPAD a permis aussi de montrer les insuffisances et de reformater ce qu'on entendait par état de santé. Voilà. Donc là-dessus, c'est clair, les informations.
Mais alors, dans les deux cas, ce qui est évoqué, ce sont les outils juridiques qui existent dans les lois. Mais on voit que ces derniers temps, il y a eu une explosion de la disponibilité de tests génétiques sur Internet. Maria Fartounova, peut-être, vous pouvez nous dire justement comment est-ce qu'on inscrit cette question dans notre débat ?
Oui, effectivement. Donc, l'information donnée au regard des perspectives qui s'ouvrent au niveau de l'Union européenne peut se poser également en sens inverse, c'est-à-dire accès à l'information qui a été donnée et donc par la possibilité de la personne de la vérifier. Et l'explosion d'Internet, d'accès aux tests génétiques et le libre accès à ces tests reformule à mon sens aussi l'interrogation selon laquelle l'État l'État doit protéger son individu. Donc il y a quand même un problème juridique aussi du positionnement de l'État vis-à-vis du secret et vis-à-vis de l'information qui est donnée et prévue dans les textes. Comment fait-on lorsque quelqu'un a accès à une information qui a priori lui était refusée ou dont l'accès lui a été restreint ou refusé. Les dérives qui peuvent éventuellement se poser, c'est toujours à mon sens, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on a l'explosion de ce libre accès avec la protection qui est revendiquée et la mise en place d'un cadre européen sur ces questions. En effet, si je dois rebondir sur ce qui vient de dire Laurence Brunet, la question toutes les informations liées à l'état de santé sont des données de santé au sens la proposition de règlement relatif à l'espace européen de données de santé et de la protection de ces données au niveau européen. Et ces données, jusqu'à 2018, dans le cadre du règlement général de protection des données personnelles, ces données sont considérées comme des données exclues de ce cadre de protection parce que des données dérogatoires, hautement sensibles, et donc chaque État devait demeurer libre pour décider comment il organisait leur protection, mais également leur partage. Avec cette nouvelle proposition, qui est une proposition depuis l'année 2022-2023, nous assistons effectivement à une nouvelle un renouveau sur cette question, dans la mesure où, pour la recherche médicale, ces données de santé présentent une certaine utilité. Mais derrière, la réflexion n'est pas encore très aboutie sur la façon dont il faudra les protéger. Et on retombe encore une fois sur une question qui est ancienne, mais qui est très importante, la question de consentement. Et sur ce point également, je renvoie également à l'avis du comité d'éthique national, du comité consultatif national d'éthique, mais aussi de tout ce qui se passe dans le cadre du groupe européen d'éthique au niveau de l'Union européenne, sur le choix du système de protection. Et de tout ce qui ressort, c'est l'une des grandes discussions pour utiliser ces données de santé pour des fins de recherche, c'est la question de l'altruisme, c'est-à-dire le consentement général et absolu, ce qui n'est absolument pas encore le cas, ni en France, ni au niveau européen, c'est-à-dire le consentement doit être circonstancié, et c'est-à-dire que si une personne décide d'autoriser l'accès à ces données de santé, c'est elle ne le fait que dans une finalité bien précise en fonction de la recherche bien identifiée. Donc c'est pour cela, c'est le choix européen qui a été fait, ce qui n'est pas forcément le cas outre-Atlantique, où la question d'une présomption générale d'acceptation d'utilisation des données de santé prédomine dans les textes et dans les milieux universitaires. Mais c'est le paradigme qui est inversé. C'est la liberté individuelle qui prime, donc l'individu est censé, il est bien informé, il peut décider par rapport à ce qui reste encore la conception européenne de protéger de cette espèce de protection, y compris parfois contre la volonté de l'individu. Et c'est tout ce qui ressort également dans le nouveau règlement SOHO, donc relatif aux dons sur des substances d'origine humaine. C'est cette protection, et d'ailleurs quand on lit les différentes dispositions de ces règlements, c'est cette idée-là qui ressort, c'est que il faut à chaque instant permettre aux donneurs de bénéficier d'une protection en renvoyant bien sûr la tâche très lourde aux États. Donc c'est aussi une future tension qui va se faire en 2027 lorsque le règlement sera opérationnel.
Ah, c'est sûr qu'on a toujours une approche très différente des Américains sur les données personnelles, quelles que soient ces données. Alors justement, dans ce cadre, la France a choisi de mettre en place des organismes pour permettre ou pour éviter justement que tout se fasse à côté avec des tests génétiques qu'on a mentionnés. Le premier, c'est le CNAOP. Huguette Moss, vous l'avez présidé, donc le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Peut-être vous pouvez nous en parler.
La question a été évoquée assez régulièrement. de l'utilisation des tests génétiques, puisqu'un certain nombre de demandeurs, enfants, mais aussi des femmes qui avaient accouché dans le secret, ont eu recours à des tests génétiques pour rechercher soit l'enfant, soit la mère biologique, soit la parentèle. Mais ce n'est pas dans le champ qui est défini pour le CNAOP. Mais moi, je partais du principe aussi que toute personne qui fait de la recherche généalogique utilise ces tests ADN, et c'est une liberté individuelle pour les personnes d'utiliser les moyens qu'ils estiment utiles pour ses propres recherches, pour faire éventuellement des contacts avec des personnes qui seraient dans sa parentèle. Donc, ça ne change pas la mission du CNAOP, mais ça ne saurait pas pour autant imposer au CNAOP d'utiliser les tests, les résultats des tests engagés à titre individuel pour demander au CNAOP de les valider, puisqu'en fait, ça repose sur des démarches complètement différentes. Et le CNAOP a un but de protection dans le cadre d'un engagement pris à un moment donné avec une femme ou l'engagement d'un enfant qui est né dans le secret, de ne pas faire de démarche intrusive. Une démarche ADN, c'est une démarche intrusive. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Jusqu'où on peut accompagner ces démarches intrusives? Donc, c'est une question qui est largement ouverte, qui est portée par des associations. Mais pour l'instant, je ne pense pas que la situation soit prête à être complètement décomptée et mise dans une loi pour faire en sorte que les tests ADN soient le recours systématique qui coûte très cher pour aller rechercher des personnes dans un grand fichier, un grand data qui mettrait tout le monde sur un pied d'égalité.
Oui, après, c'est la démarche de l'enfant. C'est vrai qu'on a dit aussi que, enfin, l'enfant devenu adulte, bien, si le parent a choisi de maintenir un secret total, voilà, il est sans recours. Donc, on sent aussi ce côté un peu, parfois, désespéré, peut-être, de vouloir accéder à ces données par ailleurs.
Et avec le risque que les mères soient intrusives.
Bien sûr, avec ce risque aussi, effectivement. Et du côté donc des dons, il existe la CAPAD. Cette fois, c'est la Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, qui est donc plus récente. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Laurence Brunet?
Moi, je veux bien en parler. Je n'en fais pas partie. Je lis de manière attentive les rapports que comme le CNAOP, la CAPAD publie chaque année. Donc effectivement, il y a aussi une disjonction complète entre ce qui peut être fait dans la vie privée et ce qui peut être fait dans le cadre de la CAPAD, parce que là, exactement comme Madame Hauss l'a rappelé, il y a l'idée d'un parcours quand même sécurisé. La CAPAD fait aussi, comme le CNAOP, ça essaye d'accompagner, hein, parce que ces tests génétiques, c'est quand même des tests, c'est un peu le Far West, c'est quand même quelque chose d'assez qui peut être très violent. Or, cet accompagnement que les institutions, avec leurs limites, les institutions ont toujours des limites dans les moyens qu'elles mettent en place, les institutions, elles, ont choisi quelque chose où il y a des échanges à tous les moments, on tient informé, où justement il n'y a pas cette espèce de brutalité de la révélation des examens que vous matchez avec quelqu'un, et où ensuite, par les réseaux sociaux, vous allez finir par trouver le donneur ou la donneuse. Ça peut être une démarche qui répond à une attente individuelle, mais les institutions doivent rester, à mon sens, à côté. Mais bien sûr, et dans l'étude d'impact de la loi de 2021, clairement, les tests génétiques ont été un élément fondamental pour ouvrir l'accès aux origines des donneurs. Il ne faut pas non plus mettre des œillères. C'est évident que ces pratiques, qui sont énormes, à 100 000 ou 200 000 personnes, c'est dans le rapport de la CAPAD qui vient de sortir, régulièrement font des tests dits récréatifs et qui, voilà. Et donc, par exemple, quand on va sur un site d'une des associations qui a beaucoup milité, beaucoup œuvré de manière aussi constructive à l'accès aux origines pour des personnes nées de dons de gamètes, la première chose qu'on voit quand on va sur le site, c'est le décompte. Voilà, c'est les décomptes comparés entre les accès aux origines permis par la CAPAD et les accès aux origines permis par les tests génétiques. Hein. Donc, 400 d'un côté, 100 d'un, plus de 100 d'un côté, 4 à l'époque. Voilà, donc évidemment, ça vous saute aux yeux, cette différence. Mais voilà, mais aussi, peut-être quelque chose, mais je ne sais pas si on va en parler, qui est intéressant dans ces tests génétiques faits de manière un peu comme ça, hors la loi, c'est la manière dont les personnes ont été mises en contact avec leur demi-génétique, voilà, avec leur génétique. Et sur ce qui se passe aujourd'hui dans la société, puisque bon, il y a quand même déjà des anthropologues et des sociologues qui ont réfléchi sur ces nouvelles germanités, voilà, la recomposition d'une sorte, vous l'avez appelé de parentèle, ou une sorte de... Là, et finalement, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis dans la presse ces derniers temps, qui montrent qu'il y a des formes de recomposition à partir des enfants des personnes qui se considèrent être des demi-frères génétiques, ce qu'ils sont d'ailleurs. Et donc des nouvelles formes qu'il faut sans doute laisser hors du droit, hein, pour reprendre une expression de Carbonnier. Voilà. Est-ce que le droit doit se mêler de tout? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas laisser les gens, voilà, prendre d'autres chemins? Bien sûr, ça peut pas être complètement... c'est poreux quand même un peu, parce que les institutions, sinon elles sont totalement désuètes, évidemment elles regardent ce qui se passe à côté, parce qu'il faut bien qu'elles s'adaptent aussi, mais avec leur propre façon d'accompagner, de sécuriser un parcours de recherche d'origine.
Moi, j'imagine qu'il va y avoir probablement encore plein d'évolutions sur ce sujet, hein. Et effectivement, ça me rappelle le film Starbuck qui portait là-dessus de façon totalement romancée, bien sûr, mais... Pas tant que ça, bon voilà, c'est intéressant de le savoir. Et pour finir, d'ailleurs presque littéralement, hein, se pose aussi la question du décès des personnes dans ce cas-là. Qu'est-ce qui se passe exactement, Maria Fartounova?
Oui, effectivement, c'est une question que j'aimerais bien adresser à nos deux intervenantes aujourd'hui. Quelle doit être la place du juge dans le modèle d'accès aux origines personnelles, au-delà de ce modèle institutionnel que vous avez évoqué? Et justement, lorsqu'il s'agit pour le juge de trancher une difficulté d'accès liée au décès. Voilà.
La question a été réglée assez rapidement au niveau du CNAOP. C'est-à-dire que la démarche d'accompagnement de l'enfant pour rechercher sa mère biologique, lorsqu'il y a le contact avec la mère biologique, l'interlocuteur du CNAOP, qui est soit le CNAOP à Paris, soit le correspondant CNAOP en département, dans le contact avec la mère de naissance, doit lui poser la question d'accepter la levée du secret de son vivant et d'accepter une rencontre avec l'enfant. Une fois que cette première étape est passée, on lui pose systématiquement la question « Et à votre décès, acceptez-vous que l'enfant ait connaissance des informations identifiantes pour pouvoir avoir accès à son identité et à son histoire ?» La question doit être répondue sur oui ou non. Alors, c'est un point effectivement sensible. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'associations voudraient qu'on revienne en arrière, alors même que c'est prévu par le décret que le CNAOP, dans son engagement d'accompagnement, aille jusqu'à la période du décès, sachant que l'accompagnement du CNAOP dure quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais cette question du décès est un élément fondamental qui est déjà tranché. Et jusqu'à présent, le fait de supprimer cette mention dans les textes relève du pouvoir réglementaire.
Bien sûr, et sensible aussi alors pour la question du don?
Oui, parce que pour compléter ce que Mme Mauss vient de dire, ce qui fait qu'il y a une tension concernant le donneur ancien régime qui serait décédé au moment où la CAPAD le retrouve, pour compléter donc ce que Mme Mauss a dit, si la recherche a été faite après et qu'on découvre que la mère de naissance est décédée, les textes disent qu'on peut donner l'identité à la personne de sa mère de naissance. Alors que c'est complètement différent pour les donneurs anciens régime décédés, parce que le Conseil constitutionnel, le 9 juin 2023, a dit que toute la constitutionnalité de ce dispositif que j'ai appelé transitoire reposait sur le fait que le donneur donnait son consentement à ce qu'il voulait, s'il voulait donner ou pas ces informations. Donc, à contrario, s'il est mort et qu'il ne peut pas donner son consentement, eh ben on ne donne pas les informations. Et donc, il y a eu des recours, hein, de la part de personnes qui s'étaient heurtées à cet obstacle qu'est le décès, c'est-à-dire qui savaient que la personne, leur donneur ou leur donneuse était décédée, qui auraient aimé que ça soit comme pour les femmes qui ont accouché sosie, c'est-à-dire qu'on leur délivre à ce moment les informations. Et le Conseil d'État, dans un arrêt très récent du 25 juillet 2024, a considéré que la question... Il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel parce qu'il a considéré que cet équilibre qui avait été trouvé de permettre la communication des données identifiantes et non identifiantes que si le donneur ou la donneuse était d'accord était un équilibre qui leur paraissait justifié. Donc le décès conduisait au silence.
Merci beaucoup. On a envie d'en savoir plus, évidemment. On aimerait rester plus longtemps. Mais je vous invite, bien sûr, à aller voir les rapports annuels du CNAOP et de la CAPAD pour découvrir plus d'informations. On remercie Sarah Mahmoudi, directrice des affaires juridiques du CHRU de Nancy, qui nous a accompagnés aussi dans la préparation de cet épisode. Merci beaucoup, Maria Fertounova, maître de conférence HDR à l'Université de Nancy, titulaire de la chaire Jean Monnet EU Bioéthique et gouvernance européenne, qui a permis ce podcast. Merci à vous, Laurence Brunet, donc juriste spécialisée dans les questions de bioéthique et de médecine reproductive. Chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne Paris 1. Merci pour vos éclairages. Et évidemment, merci Huguette Moss, ancienne présidente du CNAOP, donc le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, membre du comité d'éthique du CHRU de Nancy et membre du comité de protection des personnes, le CPP. Vraiment, c'était passionnant. Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et celui des Surligneurs. Pensez à vous abonner à nos chaînes et nos réseaux sociaux pour être tenu au courant des diffusions de nos épisodes.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.